L'épisode du jour concerne le vin, ainsi nous vous rappelons que la consommation d'alcool doit se faire avec modération.
Chers auditeurs, c'est une grande émotion pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui au travers de ce premier épisode reportage de la saison 3 du Géopolitique. Vous qui avez tant contribué à la construction de cette émission hebdomadaire, je vous accorde mon premier remerciement. Vous qui nous écoutez chaque semaine, je peux fièrement vous annoncer la réalisation d'un projet unique en son genre, la production d'une émission du Géopolitique dans un lieu exceptionnel, le château Smissot-Lafitte, au cœur du vignoble bordelais. Un projet ambitieux mené avec brio par notre journaliste préféré à l'énergie communicative, Romain, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour Gauthier, bonjour Madame Katiar, je suis ravi d'être ici et ravi de voir un projet qui a pris naissance il y a des mois se concrétiser aujourd'hui.
Un projet collectif aussi, puisque l'ensemble de l'équipe du Géopolitique a participé à la rédaction ou à la logistique de cet épisode. Et puis un projet saupoudré d'expertise enfin, puisque tu l'as déjà dit Romain, Florence Katiar, propriétaire du château Smissot-Lafitte, nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Bonjour Madame.
Bonjour, écoutez, c'est un plaisir. Je ne vous attendais pas si jeunes et si nombreux, mais je suis ravi, c'est bien.
Alors que le monde semble devenir un jeu d'échecs grandeur nature, c'est l'État le plus influent qui fait la loi. La France peut alors compter sur son soft power. Ainsi, au-delà d'une culture identifiable sur tous les méridiens de la planète, l'Hexagone possède un vignoble reconnu, le Bordelais. Au travers de cette étude de cas locale, nous allons tenter de vérifier des dynamiques géopolitiques internationales. François Rabelais disait « Il n'y a pas de joie sans vin ». Aujourd'hui, nous avons le vin et la joie semble s'entendre dans ma tonalité de voix, alors sans plus tarder Romain, je te donne la parole.
Merci beaucoup Gauthier pour cette magnifique introduction. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour le premier reportage de cette troisième saison du podcast Le Géopolitique, place à l'action. Vous l'avez donc compris, ce premier reportage nous emmènera à la découverte du vignoble bordelais, son histoire, ses traditions pour tenter de comprendre par la suite comment le vin de Bordeaux en particulier concourt à inscrire la France dans une logique de soft power. En effet, le soft power français ou bien puissance douce désigne tous les aspects culturels, ethniques, sociaux qui font rayonner un pays à l'échelle internationale. En clair, cette notion désigne tout ce qui fait la puissance d'un pays et qui n'est pas d'ordre politique, diplomatique ou encore militaire, c'est alors ce que l'on pourrait appeler le hard power.
Pour commencer Manon, c'est l'heure de ta règle de 3. 3 points pour illustrer la vie de notre invité du jour, Florence Katiar.
Alors, pour décrire Florence Katiar, il aurait fallu modifier la tradition et élargir le portrait en une dizaine de points. Cependant, la règle oblige, nous nous limiterons à 3 points. La première chose notable à propos de Florence Katiar, c'est qu'elle fit partie de l'équipe de France de ski alpin. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle rencontre son futur mari, Daniel Katiar, à Val d'Isère. Là aussi, Florence Katiar marque un record puisqu'elle célèbre en 2018 50 ans de mariage avec Daniel Katiar. Ce couple fut le moteur de beaucoup de choses puisque le couple reprend les supérettes Gentil Katiar héritées du père de Daniel Katiar pendant 10 ans avant le lancement conjoint de Go Sport. Tandis que Daniel Katiar se concentre davantage sur Go Sport, Florence Katiar lance sa propre agence de communication SP3 qui rencontre également un franc succès. À la fin des années 1980, les Katiar vendent leurs activités respectives, mais Florence Katiar garde une place importante dans son agence, désormais part du groupe McCain, puisqu'elle est la vice-présidente de la branche européenne. Le tournant de l'aventure correspond à l'achat des 60 hectares du château Smissot-Lafitte de Martillac. Cette acquisition est vertigineuse, puisqu'elle représente près de 38 millions d'euros et permet au couple de se réunir dans un projet commun. Le château est alors réaménagé et le domaine viticole est transformé. On ne souhaite plus faire du vin pour faire du vin, mais réellement produire du vin qualitatif et respectueux de la nature. C'est ainsi qu'en plus d'être classé grand cru de grave pour le vin rouge, le vin du château Smissot-Lafitte obtient en 2019 la certification de vin en culture de biodynamie. Le troisième point sur lequel il est intéressant de se positionner, c'est la transformation du château sous le joug de Florence Katiar et de son mari. Le domaine n'est pas seulement connu pour sa pratique de production de vin respectueuse de l'environnement, on a un véritable développement de l'œnotourisme avec notamment un parcours à vélo ponctué d'œuvres d'art sur 10 hectares, la présence d'un centre de remise en forme, d'un hôtel et d'un restaurant gastronomique qui font du château Smissot-Lafitte le lieu idéal pour découvrir non seulement l'œnologie, mais aussi la culture française tout entière. Les Catiars ont par ailleurs agrandi leur activité avec l'acquisition d'un domaine viticole dans la Napa Valley, en Californie, dont la première cuvée a été commercialisée en 2022. Qui plus est, les Catiars ont derrière eux un bel héritage avec leurs deux filles Mathilde Thomas et Alice Tourbier, respectivement responsables avec leur mari de la marque Caudalie et propriétaire de plusieurs hôtels dont les sources de Caudalie avec ses 5 étoiles.
Merci Manon. Alors à présent, nous allons passer à notre première partie. Et pour commencer, je dois dire que la géopolitique est une science pluridisciplinaire qui ne peut s'échapper des trajectoires historiques. Et cet épisode ne veut pas entrer dans une analyse purement géopolitique. Il se veut original. Alors pour ces deux raisons, la première partie de notre émission vous propose une histoire du vignoble bordelais. Léonard, musique d'ambiance. Romain, c'est à toi.
Bien sûr, Gauthier, que nous allons parler d'histoire. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler de l'histoire des vignobles bordelais? Alors, je vous propose de fermer les yeux pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent pas et qui nous écoutent en conduisant, ce n'est pas conseillé, je ne vous le conseille pas. Mais vous pouvez donc fermer les yeux et partons dans l'Antiquité, plus précisément au 1er siècle avant notre ère. L'apparition de la vigne remonte donc à cette époque, alors que les Biturils vivisques, à tes souhaits, peuplade de guerriers celtiques ayant été déplacés de la région de Bourges vers l'embouchure de la Gironde et installés par l'Empire romain à Burdigala, l'ancêtre de Bordeaux, ils décident de planter leur propre vignoble avec le cépage Biturica, ancêtre des Cabernets dont la résistance au froid est vantée. D'ailleurs, on raconte que ce serait César qui les aurait séparés du reste des Bituriges pour punir leur participation au soulèvement de 52 avant Jésus-Christ contre l'Empire romain, notamment à travers les batailles de Gergovie et d'Alésia. Ces Celtes auraient donc créé le vignoble bordelais en raison de l'augmentation des prix du vin porté par les Romains depuis Narbonnaise et l'Italie, et ensuite exporté eux-mêmes leur vin par la voie maritime, l'estuaire se prêtant à merveille à cette tâche. La facilité à commercer avec la Bretagne, Angleterre actuelle et les régions du nord de l'Europe aurait aidé à la création du vignoble. Mais au-delà de ce cours historique, je me tourne vers notre invitée du jour, Madame Catiard, pour vous demander pourquoi Burdigala? Pourquoi Bordeaux? Même si j'ai montré que le vignoble n'occupait que des terres argilo-calcaires, puisque les graves ne seront drainées que beaucoup plus tard, quelle spécificité de la terre à Bordeaux, et peut-être pouvons-nous déjà aller plus loin, en quoi la terre constitue un élément principal de la culture du vin?
Oui, quand vous parlez de terre, moi c'est vrai que je préfère parler de terroir. Parce qu'on sait aujourd'hui que le sol n'est plus le support inerte de la vigne. On a appris que les grands terroirs sont ceux qui ont, alors là je vais parler un peu de mon cru, des laphites, des laïtes, ce qui veut dire colline, cosse, mouton, tout ça est synonyme. Et quelque part ça veut dire qualité, puisque la Garonne, comme disait Michel Serres, a roulé pendant des millénaires ces fameux cailloux, ces fameuses graves, et il disait donc du calcaire la force, je crois, de l'argile la finesse, on est déjà pas mal là, et il disait c'est ce qui a fait la force de ce vignoble unique qui est le grave. Alors, ajoutons à ça, et les jaloux vont le sortir en premier, des jaloux, Dieu sait qu'il y en a, parce que Bordeaux, c'est quand même l'étalon or de la viticulture dans le monde, et ils vont dire c'est aussi parce que Bordeaux était déjà un port, donc avec une activité de bateaux à l'époque de, je ne sais pas si c'était c'était pas déjà les gabarres. Moi, je sais que George Smith, qui est venu au 18e et qui a donné son nom à Smith au Lafitte, lui, il avait un trois-mâts à voile avec des canons pour traverser le Channel River et des barriques. Et en tout cas, il y a toujours eu une activité port de Bordeaux sur la Garonne. Et donc, ça a aidé par rapport à d'autres vignobles qui étaient peut-être moins au cœur. Et puis, ceux qui ont beaucoup aidé, ce sont les Anglais aussi, ensuite, au cours de la guerre de 100 ans.
Oui, nous reviendrons à ce point plus tard. Mais revenons maintenant à l'Antiquité. À partir de ces affirmations de la création d'une vigne dans la province de Burdigala sous l'Antiquité, notamment avec la preuve que des notables comme le poète Ozone détenaient une villa et des vignes, la villa Nucaniacum à Saint-Émilion pour le poète Ozone, prétendument à l'emplacement de l'actuel château Ozone. À partir de ces vers qui vantent le vignoble de Burdigala, j'en cite quelques passages extraits de l'Allégorie des mois. Septembre cueille les grappes gonflées de raisins d'hiver, en ce mois tombent les fruits mûrs, octobre, déjà on voit écumer les cuves de Bromius, et le moût qui bouillonne, voici un vase où fermente le vin nouveau.
Alors Romain, si je suis bien ta chronologie, et j'ai réussi, nous rencontrons un problème de source par la suite, c'est bien ça?
Oui, ce sont des vers parmi tant d'autres, mais dès les premiers siècles de notre ère, on ne sait plus ce que devient le vignoble bordelais. L'Empire romain s'effondre, les documents manquent, et ça n'est qu'au XIIe siècle que nous avons des traces écrites fiables sur le vignoble. Le XIIe siècle, c'est d'abord un événement incontournable pour une figure historiquement incontournable en Aquitaine, j'ai nommé Gauthier.
Aliénor d'Aquitaine.
Bien sûr, Éléonore de Guyenne, de son vrai nom, se remarie donc en 1152 avec Henri Plantagenet, après avoir été reine de France de 1137 à 1152, la même date. Lui, qui comte d'Anjou, accède au trône d'Angleterre et entraîne l'annexion du duché d'Aquitaine à la couronne. De cette annexion ne tarde pas à émerger une propension à faire évoluer le vignoble, qui se développe en même temps que se développe Bordeaux et s'étend désormais vers le nord-ouest et le sud-ouest. Au XIIIe siècle, le vignoble s'étend à nouveau dans l'Entre-deux-Mers, région qui se place entre la Garonne et la Dordogne, donc à l'est de Bordeaux, et dans le Médoc. Le vignoble va suivre désormais l'estuaire de la Gironde. À cette époque, cet estuaire et l'annexion du duché d'Aquitaine favorisent les exportations de vin, puisque les Anglais exportent métaux et textiles, puis importent le vin de la région.
Alors le XIIe siècle s'est fait, et au cours du XIIIe siècle, la hiérarchie des ports atlantiques va changer, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, au XIIIe siècle, le port de La Rochelle, jusqu'alors principal port d'exportation des vins de Bordeaux, est pris par le roi de France, faisant par conséquent de Bordeaux la nouvelle place centrale des expéditions de vin. Faisant, les Anglais vont accorder de nombreux privilèges aux exploitants bordelais, passant notamment la vente en priorité des vins du cru, c'est-à-dire de Bordeaux, sur les vins du Haut-Pays, de Cahors, de Gaillac, de Bergerac et j'en passe. Ces vins-là sont donc bloqués à la vente jusqu'à Toussaint ou Noël. Cette exclusivité importante à l'époque, d'une part parce qu'ils voient l'avènement d'un privilège économique, et d'autre part parce que les vins à cette époque se conservaient peu, ce qui constituait presque la vente assurée des productions. Cela motive les Aquitains à planter plus. On a une nouvelle phase de développement du vignoble bordelais, notamment vers Libourne. En 1453, c'est la bataille de Castillon qui oppose le royaume de France au royaume d'Angleterre. Les Français l'emportent, ce qui signe la fin de l'emprise anglaise sur l'Aquitaine. Bordeaux est rendu aux Français, mais le roi de France est encore très impopulaire dans une ville où la domination anglaise avait permis un fort développement économique.
Et alors l'impopularité envers le roi de France ne va faire que grandir.
Le 9 octobre 1453, le roi Charles VII interdit aux exploitants bordelais de commercer avec l'Angleterre. Les Bordelais perdent alors leur principal importateur et commerçant de vin. C'est la fin de la prospérité de la ville. En 1599, donc 150 ans plus tard, Henri IV fait appel aux Hollandais pour drainer la région du Médoc et les zones humides entourant Bordeaux. Cet événement signe la possibilité pour les viticulteurs de mettre en exploitation ces zones. Étant sur la zone, d'ailleurs, les Hollandais en ont profité pour encourager la production de vins qu'ils considèrent plus à leur goût. C'est le cas des vins blancs, doux, dont aujourd'hui peut-être le meilleur représentant est sûrement le Sauterne, ainsi que des vins noirs, ce que nous appelons les vins rouges, et tels que nous les connaissons aujourd'hui. À partir de cette époque, on doit l'histoire du vignoble et sa prospérité sûrement à une famille. Je veux parler de la famille de Pontac. Cette famille innove dans le domaine et donne à voir une nouvelle manière de faire le vin, notamment le soufrage, l'ouillage et enfin le soutirage. Comme vous l'avez compris, cette famille est aux prémices de ces innovations qui sont toujours pratiquées encore aujourd'hui. Et à cela s'y ajoute l'utilisation des barriques de chêne. Peut-être pouvez-vous nous aiguiller, Madame Katiar, encore plus. Pourquoi le chêne ? On sait que c'est un bois qui est majoritairement utilisé dans le Bordelais. Pourquoi le chêne ? Qu'a-t-il de spécial ? Qu'apporte-t-il au vin en termes de goût et de saveur ?
Alors, je n'emploie pas le mot fût, parce que à Bordeaux, ce sont les barriques. Sans ça, nous avons des foudres aussi, ou alors nous avons aussi des cuves en chêne. Voilà, voilà à quoi le chêne nous sert. Et c'est du chêne français, et je préfère le dire tout de suite, parce que le chêne américain, on trouve qu'il est plus rustique, et d'ailleurs les meilleurs vins américains sont faits avec du chêne français. On a essayé toutes sortes de chênes, parce que nous faisons partie des trois châteaux bordelais, les autres étant Lafitte Rothschild et Château Margaux, Aubryon ayant saisonnièrement un tonnelier, mais qui ne reste pas à l'année. Nous avons donc ce privilège coûteux, mais important, d'avoir un tonnellerie intégrée au château Smith Lafitte, parce que ça nous permet de maîtriser nos chauffes. On va choisir, enfin pas moi, mais notre directeur Fabien Tedjen, qui est directeur technique, il va choisir dans l'Allier et puis dans le centre de la France. Généralement, c'est toujours Troncé, Jupy ou Loche, les forêts où nous allons choisir nos chênes. Il a même appris à les mâcher et on suit tout le découpage des chênes qui arrivent chez nous en douelles. Vous savez que toutes les douelles ont une taille différente et ensuite on fait la rose et ensuite ça. Mais pourquoi ce chêne ? Parce que c'est un bois dur et puis c'est un bois qui va permettre, qui a des tanins et ces tanins, des tanins légers, va permettre de faire des vins de garde. C'est lorsque les Gaulois ont inventé les barriques que les amphores grecques ou latines, qui amenaient souvent du vinaigre ou alors de la sangria, puisqu'ils ajoutaient, enfin sangria c'était pas le mot de l'époque, mais ils ajoutaient des fruits et des épices pour faire tenir un peu leur liquide. Du coup, c'est les barriques qui ont apporté ces vins de garde qui font la gloire de Bordeaux aujourd'hui.
Alors, nous reviendrons plus en détail sur votre château et le processus de fabrication d'un vin. Restons encore un peu dans l'histoire. C'est peut-être long pour vous, je sais, mais ça s'accélère. La famille de Pontac a donc inventé une nouvelle méthode qui, comme vous l'aurez compris, est à l'origine de la fabrication du vin moderne. Ils décident eux-mêmes de faire la promotion de ce nouveau vin, un vin qui se conserve plus, dont la production, j'oserais dire, est de plus en plus assurée, puisqu'on prend soin de la vigne pour qu'elle produise chaque année et en assure une production car elle ne sera pas touchée par les maladies. Ils décident de partir sur le marché anglais pour vendre leur vin et là c'est un carton complet. Leur vin est très apprécié, il se vend plus cher, bref, tous les négociants décident à l'unisson de tenter de copier leur vin en s'appropriant leur technique. Le vin de Bordeaux se vend de plus en plus et à cette époque on parle d'une fureur de planter. Les graves du Médoc sont investis d'un vignoble, au sud-est en étant le Sauternay, le vignoble s'étend, Bordeaux se fait une place sur les grandes tables royales et est introduit à la cour de France par le duc de Richelieu, d'où le nom de tisane de Richelieu donné au Bordeaux. En parallèle, au XVIIe siècle, Anglais, Allemands, Flamands, Irlandais et Russes convergent vers Bordeaux pour s'y installer en tant que négociants de vin et on voit se développer un commerce international de plus en plus grand. Sous Louis XIV, les protestants sont persécutés, les huguenots de Bordeaux fuient le pays pour les provinces unies et Hambourg, où ils s'installent en tant que négociants de vin, vous l'aurez donc compris, une innovation majeure et un contexte politique qui joue pour beaucoup et c'est une phase qu'on pourrait presque appeler de première mondialisation.
Si on continue ta chronologie pour le moins complète, tu souhaites nous dire deux mots, ou un peu plus, j'ai l'impression, sur le XVIIIe siècle.
Oui, je pense qu'en deux mots, ça va être assez compliqué. Parce qu'au XVIIIe siècle, Bordeaux entre dans une logique de commerce colonial et s'ouvre aux îles d'Amérique, et fait foi d'une grande prospérité à l'époque des Lumières, et ce jusqu'à la Révolution. À la même époque apparaissent les premières bouteilles bouchées et scellées, ce qui constitue une grande innovation puisque le vin se conserve plus longtemps. Au XIXe siècle, la prospérité du vignoble ne cesse de croître, les exploitants plantent toujours plus, les châteaux sortent de terre, la construction d'une ligne de voie ferrée Bordeaux-Paris contribue à l'exportation en masse du vin vers la capitale, tandis que l'exportation vers les Amériques et le nord de l'Europe ne cesse de croître. Mais à partir de 1857, tout s'écroule. Le vignoble est touché par l'oïdium, maladie dégradant les vignes, dont on va reconnaître le soufre comme moyen d'enrayer la maladie. Dès 1866, c'est le phylloxéra qui arrive, puis le mildiou en 1878, bref, tout un tas de maladies qui vont faire notamment que va naître la bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou, un mélange d'eau, de sulfate, de cuivre et de chaux. Malgré tout cela, le vignoble assoit sa prospérité, c'est notamment sous le deuxième empire de Napoléon III qu'est créé le fameux classement de 1855 qui recense à l'époque les châteaux en fonction de leur prix au baril. En clair, plus un producteur vendait son vin cher, meilleur il était censé être.
La prospérité du vignoble bordelais est croissante et s'explique aussi par une faible réglementation, réglementation qui donc va émerger au cours du XXe siècle.
Oui, le XXe siècle, et j'en finirai là avec ce point histoire, le XXe siècle donc est plutôt un siècle de réglementation. En effet, fin XIXe, début XXe, le vignoble bordelais connaît une mauvaise phase, celle des fraudes et des baisses des prix, notamment avec la Grande Dépression qui touche la France dans ces années-là. C'est donc naturellement que les Bordelais vont participer à l'élaboration d'une législation nationale en 1911 sur l'origine des vins. Elle délimite des aires d'appellation. Cette délimitation aboutira d'ailleurs en 1936 à la création de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, et aux AOC, Appellations d'Origine Contrôlée, régies par des décrets de contrôle qui précisent des conditions de production précises, aires géographiques, cépages, rendements, degrés, méthodes de culture et de vinification. Les AOC représentent aujourd'hui 97% de la production bordelaise. En 1948, l'État crée le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, chargé de la promotion collective, de l'assistance technique, de l'encadrement des contrats et du contrôle. De nouveaux classements sont créés pour les graves, puis pour Saint-Émilion à partir de 1955. Après les terribles gelées de 1956, le vignoble retrouve un peu de son dynamisme, aidé notamment par l'accroissement de la demande dans le monde entier. D'ailleurs, le vieillissement et la mise en bouteille y ont beaucoup contribué. Les techniques œnologiques ont fait d'immenses progrès, comme ceux de l'agronomie. Les récoltes s'estiment en moyenne autour de 6 millions d'hectolitres. Après la Seconde Guerre mondiale, le commerce s'ouvre vers les États-Unis et depuis la fin du XXe siècle, le vignoble ne cesse de croître puisqu'il est passé de 100 000 hectares en 1992 à 125 000 en 2000, cela diminuant à 118 000 hectares environ aujourd'hui. On voit de nouveaux investisseurs qui s'implantent dans le Bordelais, tels que les firmes transnationales ou des représentants de notre pays, mais je garde ça pour un peu plus tard, c'est la fin de la partie historique de ce podcast, celle d'un vignoble en constante évolution depuis sa création, mais maintenant je donne la parole à Antoine qui nous promet une chronique des plus intéressantes.
Merci professeur, un vrai cours magistral, j'espère que tu as réussi à bien dormir avec toute cette histoire. Alors en plus de construire un véritable récital de l'histoire du vignoble bordelais, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut le préciser, tu as donné du travail à nos chroniqueurs habituels. Antoine et Lamia sont sortis de leur zone de confort, ils oublient quelques instants Hard Power et la Grande Réorientation, leurs chroniques respectives, pour eux aussi discuter de la plus belle boisson du monde. Alors malheureusement Lamia n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais elle a construit avec Antoine une chronique tout à fait originale.
Bonjour à tous, bonjour Gauthier donc, mais bonjour à tous les autres membres. Laissez-moi d'abord vous dire toute ma fierté d'être dans ce lieu empreint d'histoire et véritable trésor, et je remercie donc tout naturellement les propriétaires de leur accueil bienveillant et chaleureux. En effet Gauthier, aujourd'hui nous allons plonger, non pas dans un tonneau, mais dans un sujet qui soulève...
Une barrique,
c'est vrai. Mais dans des débats passionnés et passionnants, le lobbying des vignerons et son impact sur la sécurité routière, d'où le titre de la chronique du jour, la toute-puissance des lobbyistes et vignerons, un frein pour la sécurité routière.
On aurait presque pu le faire avec une musique épique en fond. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner le contexte dans lequel s'inscrit cette chronique et pourquoi le lobbying paraît-il de nos jours, dans une certaine mesure, légitime ?
Le vin, indissociable de la culture française, véritable arme géopolitique, est depuis longtemps au cœur des débats politiques. Même si Romain vous le rappellera sûrement un peu plus tard dans l'épisode, je voulais juste, à travers quelques chiffres, non exhaustifs mais suffisants, vous montrer l'importance de ce secteur et son rôle stratégique dans notre économie nationale. En 2021, par exemple, les exportations de vin français ont atteint environ 9,4 milliards d'euros, selon les données du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Par ailleurs, la France est l'un des plus grands producteurs de vin au monde. En 2021, la production viticole s'est élevée à environ 41,9 millions d'hectolitres, selon le ministère de l'Agriculture français. Je vous donne encore deux ou trois chiffres et promis, je m'arrête. Le secteur viticole joue un rôle majeur dans la création d'emplois en France. On estime que plus de 500 000 personnes travaillent directement ou indirectement dans l'industrie du vin. Et puis enfin, la France compte environ 800 000 exploitations viticoles, couvrant une superficie d'environ 800 000 hectares. La diversité des terroirs contribue à la production de vins très variés et de haute qualité. Et puis, en fait, ce n'était pas du tout le dernier chiffre, le tourisme viticole est en plein essor. Environ 10 millions de touristes visitent chaque année les domaines viticoles en France, contribuant à l'économie locale et renforçant la notoriété des régions viticoles. Nous nous rendons bien compte de ce pourquoi ces dernières années une nouvelle dimension s'est ajoutée, le lobbying des vignerons. Ces professionnels du vin ont mobilisé leurs ressources pour influencer les politiques, en particulier en ce qui concerne la sécurité routière.
Pour continuer, est-ce que tu pourrais simplement nous définir ce qu'est le lobbying pour savoir de quoi nous parlons aujourd'hui et comment il s'insère dans le domaine du vin ?
Le lobbying, c'est tout simplement une pratique courante où des groupes d'intérêts vont chercher à influencer les décisions politiques en leur faveur. Ces lobbyistes s'insèrent donc dans le processus de construction, de décision des politiques publiques afin d'influencer sur l'acte final et notamment pour que ce dernier aille dans leur sens. Dans le cas des vignerons, leur principal argument est que des mesures plus strictes en matière de conduite et d'alcool au volant pourraient avoir un impact négatif sur leur industrie. Rappelez-vous des chiffres que je viens de citer, eh bien les lobbyistes citent à quelque chose près les mêmes. Légitime donc je dirais ce lobbyisme vu la puissance économique de ce secteur.
Alors au-delà de la légitimité, est-ce que tu peux nous dire quels sont les points de vue qui s'opposent dans le débat que tu nous présentes ?
D'un côté, les vignerons soutiennent que la majorité de leurs clients consomment de l'alcool de manière responsable et que des régulations plus strictes pénaliseraient injustement leur secteur. C'est ce que je viens d'expliquer. Puis, de l'autre côté, vous avez les partisans de la sécurité routière qui estiment, eux, que des mesures plus rigoureuses sont nécessaires pour réduire les accidents liés à l'alcool au volant, puisqu'aujourd'hui, encore un chiffre, mais ce sont 30% des décès sur les routes qui sont liés à l'alcool. Cependant, les vignerons mettent en avant le fait que la majorité de leurs clients ne sont pas impliqués dans ces incidents et que des restrictions plus sévères ne sont pas la solution. Les deux arguments s'entendent donc, mais rappelons tout de même une consigne somme toute assez simple, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas. On voit donc bien comment, sur un même sujet donné, les avis divergent et paraissent peu conciliables. On vous laissera donc débattre entre vous.
Est-ce que alors tu as des exemples concrets de ce lobbying des vignerons ?
Effectivement, cette difficile conciliation entre arguments économiques d'un côté et arguments sécuritaires trouve son point de rupture lors d'une campagne visant à sensibiliser les conducteurs sur l'alcool au volant en Loire-Atlantique. C'était déjà en 2021, juste pour remettre un peu dans le contexte, et au bord de la route, un panneau avait été implanté et sur ce panneau, nous pouvions voir un verre de vin dans un triangle danger, puis un symbole égal et enfin une voiture accidentée, elle-même dans un triangle danger, et donc le tout sous forme de pictogramme façon code de la route. Il aura donc suffit d'un panneau, certes, porteur de sens, pour mettre le feu aux poudres et donc pour que les lobbyistes s'offusquent. Les panneaux stigmatisants pour les représentants du vin, sous la pression des lobbyistes, avaient finalement été retirés, montrant la forte capacité de mobilisation de ces acteurs. Plus récemment, une histoire semblable s'est déroulée en janvier 2023. Effectivement, le mois de janvier est d'habitude le mois du défi visant à limiter et à s'interroger sur sa consommation d'alcool, le Dry January. Cependant, après des négociations et une forte mobilisation, les acteurs de la filière viticole ont réussi, avec l'appui du chef de l'État lui-même, à réduire la portée de cette longue campagne.
Alors pour reprendre la formule d'un célèbre journaliste, il faut en parler maintenant. Le gouvernement et les autorités publiques doivent donc naviguer sur une ligne de crête. Comment se positionnent donc les politiques à ce sujet ?
Le gouvernement a tenté de trouver un équilibre entre la promotion de la sécurité routière et la préservation de l'industrie viticole. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées, mettant l'accent sur la responsabilité individuelle. Des compromis ont été discutés pour éviter des restrictions trop sévères qui pourraient nuire aux vignerons, tout en préservant la sécurité publique. On voit donc bien qu'il s'agit de concilier les arguments de chacun et encore une fois, l'État doit trouver le bon équilibre. En conclusion, le lobbying des vignerons sur la sécurité routière est un défi complexe où les intérêts économiques s'opposent aux préoccupations de sécurité. Trouver un équilibre entre ces deux aspects reste un défi constant pour les décideurs politiques. L'avenir réserve probablement de nouvelles discussions et négociations, alors que la France cherche à concilier sa passion pour le vin avec la nécessité de rendre les routes plus sûres pour tous. Voilà donc pour notre chronique du jour, qui j'espère vous aura autant intéressé que les chroniques habituelles Art Power et la Grande Réorientation. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer notre chroniqueuse, Lamia.
Oui, qui est rentré à la capitale ce jour. Mais c'est sûr que les gens vont adorer ta chronique. Antoine, merci beaucoup. À présent, le château Smith-Lafitte, notre lieu d'enregistrement du jour, est un lieu avec une histoire singulière, proche de la terre et proche des hommes. Cela mérite un long et beau récit. C'est le tien, Romain. Je crois que tu as des questions à poser à Florence Cattière, notre invitée du jour.
Déjà, pourquoi avoir investi dans le vin ? Qu'est-ce qui vous unit à cette histoire et quel était l'objectif, si tant est qu'il y en ait un ?
Oui, c'est une longue histoire, parce que quand nous étions dans l'équipe de France de ski, bien sûr, on ne buvait aucun alcool, mais à l'époque, ils obligeaient les filles comme moi, et Dieu sait que je n'ai pas le format, de faire les trois disciplines, c'est-à-dire la descente. Moi, je suis une slalomeuse venue des Alpes du Sud. Et donc, on était trois filles comme ça, dans mon cas, on avait très peur. La veille des descentes, on ne dormait pas, on faisait des obstacles toute la nuit. Et on nous a suggéré, un très grand champion, mais vous étiez loin d'être né à l'époque, nous a suggéré de boire un verre de Bordeaux et nous a dit du Cabernet, parce que c'est le plus digeste des cépages, la veille. Et nous, on avalait un petit verre de Cabernet, parce qu'à l'époque, l'équipe de France gagnait tout. Nous, on était des second plans. Hein. Il y avait les Sir Wachel qui ont gagné 3 médailles d'or, il y avait Jean-Claude Killy qui en a gagné 3 lui tout seul, enfin, etc. Et donc, on buvait ce verre de vin, on dormait et on arrivait un peu mieux reposé le lendemain au départ des courses. Et ensuite, quand on s'est marié, on a demandé des bonnes bouteilles de bon Bordeaux pour avoir une liste de mariage bourgeoise. Et ensuite, quand on a voulu changer de vie, après 20 années où moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'Angleterre et l'Amérique, j'étais basée à Paris, Daniel avait un petit avion, mais avec les Go Sport, il voyageait tout le temps, on se croisait dans les aéroports. Et du coup, on a décidé de vendre des affaires au mieux de leur forme. Et il n'y a eu aucune casse sociale, ça je tiens à le préciser, parce que les anciens, enfin maintenant il y en a de moins en moins, mais ils venaient toujours nous voir chaque année. Et donc on a vendu et tout naturellement, on s'est dit le vin de Bordeaux. On ne connaissait pas Bordeaux, mais bon. Et on est tombé amoureux de Smith-Lafitte. quand on nous a proposé d'acheter trois vignobles, je ne dirais pas le nom des deux autres, qui étaient des crus classés aussi, mais nous, c'est Smith & Lafitte dont on est tombé amoureux et qui était détruit. Pourtant, la tour était cassée. Ici, vous aviez des grands trous au plafond. Les trois cheminées avaient été volées. Là, il y avait du sable et des petits buissons parce que les termites avaient mangé tous les bois. Enfin, et le banquier étranger qui était contre nous pour l'achat de ce château, il voulait faire une pyramide de verre parce que c'était la mode où Pey avait fait la grande pyramide de Paris, au Louvre. Voilà, ça a été, on a eu des débuts fort difficiles.
Et à propos de ce château, nous sommes arrivés ici dans ce magnifique château qui semble comme à part des autres par son architecture, étant très différente, beaucoup sur le bois notamment. Pouvez-vous nous parler de ce château, s'il vous plaît ?
Oui, alors c'est un château très ancien qui remonte au XIVe siècle. À l'époque, le premier propriétaire connu s'appelait Verrier du Bosc et il y avait déjà une petite vigne. Et puis après, je vais sauter par-dessus les siècles parce que ça se perd un peu dans les méandres de l'histoire. J'arrive chez George Smith qui, lui, était très organisé puisque il avait une femme à Perth en Écosse, un business à Bristol, England, où il allait avec son trois-mâts à voile et ses canons et ses barriques. Et il a construit exactement l'endroit où nous sommes en ce moment, cette chartreuse 18e pour sa maîtresse bordelaise, qui s'est appuyée sur la ferme 17e où nous avons notre cuisine. Il y a eu une série de propriétaires prestigieux. Ensuite, nous avons eu, au 19e siècle, nous avons eu Lodi Dufour du Berger, qui était maire de Bordeaux et président de la Chambre de commerce et signataire du classement du Médoc. Ensuite, nous avons eu la famille de Paul Claudel. Ensuite, nous avons eu... avant cela, nous avons eu Oncle Louis Eschenauer, plus grand marchand de Bordeaux, Paul Claudel. Puis après, c'est tombé entre des mains anglaises qui avaient aussi Rosan Segla et deux distilleries en Écosse de whisky et qui ont dû venir trois fois en 30 ans. Et donc, c'est un autre George, Monsieur Walker, qui nous a vendu. C'était un ancien boxeur qui avait fait fortune dans les paris sur les matchs de boxe et qui avait du real estate en Jamaïque. Mais au début, il venait nous voir en Rolls-Royce et en jet privé. Et au bout de deux mois de négociation, il avait tout perdu. Et on ne comprenait pas pourquoi il nous vendait si cher. Et c'était sa goutte de profit dans son océan de dettes, comme il m'a dit en anglais. Voilà l'histoire du château. Et c'est là qu'on est arrivé dans un château où chaque propriétaire avait mis sa marque au fil des siècles. Et la plus vieille partie du château, c'est l'escalier du bas de la grande tour. Tour que les Anglais ont remonté au 19e pour faire un signal de 4 mètres de haut. Et d'ailleurs, ça lui donne un profil un peu déséquilibré, mais qu'on a gardé. Ça ressemble plus en fait à une bastide gasconne qu'à ces châteaux du 19e qu'on trouve en Médoc et qui ont été faits, pas mal ont été faits par Viollet-le-Duc, à l'image de Carcassonne.
Merci. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les étapes de la production d'un vin et qu'est-ce qui, selon vous, rentre en jeu dans la production de ce qu'on pourrait appeler un bon vin ?
Alors déjà, il y a une différence entre bon et grand. On fait des grands vins. Parce qu'on peut dire qu'un rosé est bon, on peut dire qu'un vin qui vous donne un petit flash parfumé et puis qui s'arrête. Ce qui fait la différence entre un bon vin et un grand vin, c'est les caudalies. Les caudalies, ça vient du latin coda, la queue et lie, la lie du vin. Et c'est les histoires que le vin va vous raconter une fois que vous l'aurez avalé au cours de la rétro-olfaction. Et quand vous avez beaucoup de secondes suggestives, mais ils se sont aperçus que ça ne pouvait pas être une mesure scientifique, puisque votre palais n'est pas le même que le mien ou celui de vos voisins. Et du coup, ça reste subjectif. Mais quand même, on voit si ça dure. Et c'est là qu'on voit la différence entre un vin qui est agréable et un vin qui va bien vieillir et qui est un grand vin. Et alors, les étapes, il faut une équipe hyper dévouée, surtout quand on est bio, parce qu'il faut travailler le dimanche, il faut suivre. On a trois météos, dont une intégrée, mais ça ne suffit pas toujours parce qu'elle se trompe. On a des années où on fait 40% de moins en récolte. Parce que le mildiou attaque. Et le mildiou, par exemple, ce n'est pas susceptible d'abîmer la qualité de nos raisins, mais ça abîme la quantité, ce qui est un moindre mal. Mais enfin, c'est là que les équipes coûtent le plus cher, parce qu'elles interviennent tout le temps. Et c'est là qu'on n'a pas beaucoup de volume à vendre. Mais on arrive toujours à faire des vins excellents, parce que le grand privilège est d'habiter au cœur de nos vignes, avec notre chef œnologue qui habite à l'autre bout et qui est ingénieur agro aussi, donc qui connaît bien la vigne. ça n'empêche pas d'être phytothérapeute biodynamicien aussi, avec ses adjoints. Et on habite aux deux bouts de ce grand losange qui est le château et des châteaux d'un seul tenant. Il n'y en a plus beaucoup à Bordeaux maintenant. C'est rare, c'est très rare. Et cela nous aide beaucoup. Donc, on supporte les coûts élevés. Parce que quand on devient bio, c'est 30% plus cher et 30% de moins de rendement. Enfin, en ce qui nous concerne, en tout cas, parce qu'on va au bout de nos idées. Donc, ça a augmenté le prix. Ce qu'on a fait aussi, et les gens qui nous aiment nous suivent. Comme je crois que less is more, on est dans le sens de l'histoire. Puisque, et vous, j'espère que vous allez... Quand plus vous vieillirez, moins vous boirez, mais mieux.
Et pouvez-vous nous présenter votre gamme de vins? Quelle spécificité à chaque vin, selon vous?
On a les blancs et les rouges. Hein. Vous savez, le vieil adage qui dit que les Bordelais sont un peu radins parce qu'ils offrent leur grand vin et puis le second vin. J'aime pas ce mot, je préfère dire mes jeunes vignes. Mais mes jeunes vignes, chez moi, elles ont 20 ans, mais c'est pas grave. Et nous, on leur répond, ben d'accord, les bourguignons, vous êtes très généreux parce qu'il faut en nourrir 5 pour en avoir une bonne. Enfin, ça, c'est le genre de vanne qu'on s'envoie entre amis. Parce qu'on a beaucoup d'amis en Bourgogne. Et en fait, nous, en rouge, eh bien, on essaye d'être un vin qui a un sens du terroir d'où il vient. Ça, pour nous, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des fruits bien mûrs, des vendanges soignées. Il faut un très beau vignoble. Nous, on pense que le fait d'être passé en biodynamie, sans le volet mystique, hein, parce que pourtant, j'ai lu les bouquins de Maria Thun, de Steiner, qui sont les papes du vin biodynamicien. Mais nous, on les soigne avec les plantes. On soigne nos vignes avec les plantes de nos forêts. Et on a aujourd'hui, le domaine de vignes a grandi, puisqu'on est passé à 70 hectares de rouge et presque 11 de blanc, mais 10 hectares qui nous touchaient. Donc, ça marche. On est toujours dans un seul losange. Et autour, on a maintenant 80 hectares de bois qu'on a acheté petit à petit. Et on trouve que c'est très important. On est cerclé par une dizaine de kilomètres de haies en biodiversité. Et ça donne de l'énergie, ça donne de la pureté à nos vins et ça donne le sens du terroir. Vous voyez, sur ma table, il y a plein de cailloux que j'ai ramassés. Et il y a des silex, beaucoup de silex, qui donnent ce petit côté légèrement fumé au grand vin de Pessac.
Justement, comme nous pouvons le voir quand nous nous rendons sur votre site internet, le domaine est souvent surnommé le plus grave des graves. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette appellation? Qu'est-ce qui fait la particularité du terroir sur lequel vous vous situez?
Eh bien, les graves, ce que je disais, c'est que c'est ces fameux cailloux amenés par la Garonne, les galets, les cailloux, depuis des millénaires et des millénaires. Et ce sont des buttes précieuses, puisque les racines de nos cèpes vont plonger profond pour aller chercher les nutriments, l'eau, les vitamines qui servent à la vigne, comme aux humains. Et cela nous donne des terroirs pas toujours faciles à travailler, mais cela nous plaît. Alors en blanc, on utilise beaucoup les chevaux qui sont sur le domaine. On en a, ça dépend des époques, 6, parfois 7. Et ils décavaillonnent et ils font sur les 11 hectares. Il faut avoir beaucoup de chevaux pour arriver à faire 11 hectares déjà. Et de temps en temps, vous les verrez sur les rouges, où là, ils diffusent simplement des préparats biodynamie, les 500, les 501, ou alors simplement les prêles, ou les valérianes, ou les fougères, ou les orties qu'on fait pousser, enfin qui poussent naturellement pour la plupart, ou là qui les millefeuilles qu'on a plantées, et qu'on récolte, qu'on sèche, qu'on broie, et qu'on travaille sur nos vignes avec trois manières. On fait soit de la tisane, soit de la décoction, soit de la biodynamisation, dans les deux sens. Voilà. Et ça marche bien. C'est compliqué, mais c'est notre passion et ça nous plaît. Et on pense que les graves, ça vient... C'est dommage que les Pessac-Léognans ne s'appellent pas grave de Bordeaux ou grave d'en haut, parce que c'est quand même la seule appellation qui a le nom de son terroir, les graves, les petits graves. Il y en a peut-être 300, et Dieu sait qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne que les crus classés de graves qui sont au sommet de la pyramide. Si.
Très bien. Alors, comme le savent peut-être certains de nos auditeurs, vous avez choisi par choix, par conviction, d'adopter des pratiques plus en adéquation avec la nature, des pratiques notamment biodynamiques, et avec l'obtention du label biologique en 2019, par la mise en culture de vos propres porte-greffes, par l'utilisation de plantes aux vertus médicinales en prévention des maladies de la vigne. Alors pourquoi ce choix et quelles sont les conséquences, quelles conséquences avez-vous remarquées sur l'évolution de la vigne et du vin
qu'on pense qu'on a des vins plus énergiques, plus purs. Et même si les rendements baissent de 20 à 30% et les coûts augmentent de 20 à 30%, nous, on trouve que c'est dans le sens de l'histoire. Parce que c'est important pour nous de garder des sols vivants. Et on croit que, vous savez, un grand vin, c'est le reflet de trois composantes. Hein. Vous avez le terroir, qui est une dimension qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est très cher, un grand terroir, mais bon, il vaut mieux en passer par là si on veut faire un grand vin. Ensuite, vous avez le dévouement de l'équipe, aussi bien dans les chais que dans la vigne. Et si vous n'avez pas ça, nous, comme je disais, c'est un privilège immense de les connaître tous par leur nom. Et je ne parle pas en matière de vendange, mais en matière de vendange, on a aussi un privilège parce qu'on est un vin de banlieue, fermons les guillemets, entouré par des bois. Mais on a les gens de Bordeaux, on n'a pas des bûches d'étrangers qui débarquent et qui ne connaissent pas le terroir. Et donc, l'humain, c'est une aide de richesse que d'hommes et de femmes. Hein, et ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, ben nous, on pense que c'est justement le soin qu'on met à avoir des raisins extrêmement purs qui sont comme des grains de caviar quand ils arrivent sur nos tables de tri.
Quand on demande à un étranger de dessiner un Français, le bonhomme en bâton est soit habillé d'un béret, soit avec une baguette sous le bras, soit avec une bouteille de vin entre les mains. En résumé, ce liquide blanc, rosé ou rouge est associé à la culture française, culture valorisée au travers d'instituts, de congrès et d'institutions. Bref, il intègre le soft power et c'est le cœur de ta démonstration, Romain.
Et pour ce faire, commençons comme d'habitude par un peu d'histoire, et notamment l'histoire du concept de soft power. En effet, conceptualisé par Joseph Nye dans les années 1990, le soft power, littéralement pouvoir doux, désigne la capacité d'un État à séduire et à attirer une audience étrangère par le biais de trois sources principales et non coercitives, sa culture qui est la source la plus utilisée, ses valeurs et ses politiques étrangères lorsqu'elles sont perçues comme légitimes. Le soft power tend aujourd'hui à s'internationaliser. En effet, ce qui pouvait avoir tendance à être réservé à la France dans une moindre mesure puisqu'elle tentait de mettre en place une logique d'influence notamment par la gastronomie lors des traités mis en place. On pense notamment à Talleyrand qui n'avait autre comme chef qu'Antonin Carême et qui disait « Donnez-moi de bons cuisiniers et je vous ferai de bons traités ». Aujourd'hui donc, jouir d'un certain prestige, favoriser les relations internationales, économiques et commerciales avec les autres pays, attirer les touristes et les investissements sont des objectifs inscrits à l'agenda de la quasi-totalité des États de la planète. Par ailleurs, il est important de dire que l'État n'est pas le seul à contribuer à ce soft power, mais il y a bien des acteurs privés et économiques qui contribuent à cette puissance. On pense en premier lieu aux chefs cuisiniers qui s'exportent, mais le vignoble et le vignoble bordelais comme certainement un des meilleurs représentants jouent aussi un rôle important en tant que représentant d'un savoir-faire, d'une tradition à la française. Et passons maintenant à une analyse plus économique, puisque peut-être que les chiffres nous éclairciront davantage sur la puissance du vignoble bordelais. Peut-être avant de passer à des chiffres plus globaux sur l'ensemble du vignoble, intéressons-nous à notre domaine, Madame Catiard. Au total, quelle quantité est produite sur votre domaine chaque année et quelle est la fourchette de prix de vente de vos vins ?
Alors chaque année, on va faire, les bonnes années, on va faire 100 000 bouteilles de Smith Olafite rouge et 20 000 bouteilles de Smith Olafite blanc. Les bonnes années. Il y a des années où on ne va faire que 80 000 ou un peu moins. Et des années où on va faire 110 000, 120 000, où là on est aux anges. Mais il y a longtemps depuis qu'on est bio qu'on n'a pas vu ça. Ce qui est peu sur la taille qu'on représente. Par contre, nous avons beaucoup de second vin, de jeunes vignes. Et là, on va faire 200 000 bouteilles. Et je comprends aussi les petites cuvées qu'on fait pour les restaurants du coin. On appelait le Lièvre, c'est un vin très sympa où on ajoute un peu de vin de presse et pas seulement du vin de goutte. Et puis en blanc, on a aussi un second vin qui s'appelle Léo de Smith. Donc voilà, on fait 5 vins. Et alors, les prix, ben ça va, si je prends le moins cher de nos vins, si vous êtes un particulier, vous parlez en retail, en prix de détail, je pense. Parce que nous, on passe par la place de Bordeaux, comme les grands crus classés. La place de Bordeaux, c'est les 50 négociants qui vont diffuser nos vins aux quatre coins du monde, dans 60 pays. Et ça, on ne pourrait jamais le faire tout seul. Parce que même si ce château est extrêmement prestigieux et a une valeur patrimoniale énorme, ce qui en sort chaque année, c'est pas énorme. Et on vend nos vins assez chers, mais moins chers qu'en Napa-Vallée ou moins chers que chez les Grandes Bourgognes, par exemple, puisque ça va tourner autour de 100 euros pour les Smith Lafitte avec des pointes à 150 quand c'est vraiment très très grand plaisir. Et puis les seconds vins sont plutôt dans la tranche 28 à 33.
Vous l'aurez donc compris à travers déjà ces quelques chiffres très significatifs, le domaine bordelais représente une grande part de la production mondiale et l'économie du vin représente une part importante de l'économie de la région. L'économie bordelaise est historiquement tournée vers la viticulture, Bordeaux est considéré par beaucoup comme la capitale mondiale du vin. Il y a autour de Bordeaux 14 000 producteurs de vin, 117 514 hectares de vignes, 400 négociants et un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros. La production annuelle est d'environ 700 millions de bouteilles, de vins de consommation courante et vins de qualité supérieure confondus. Ce sont aussi pas moins de 60 000 emplois proposés dans le secteur et aujourd'hui l'exportation correspond à 42% de la commercialisation dont les principaux acteurs sont par exemple le marché européen puis la Chine qui à elle seule acquiert 72 millions de bouteilles par an. L'Asie est par ailleurs devenue le premier importateur de vin avec par exemple 34% des expéditions. La vente de vin est portée par les exportations mais aussi de plus en plus par le no-tourisme. C'est le fait de visiter les domaines et de déguster le vin, cela favoriserait les ventes. Madame Catiard, savez-vous combien environ vous accueillez de touristes par an et si vous observez des retombées économiques sur les ventes ?
Oui, alors on accueille une vingtaine de milliers de personnes par an, mais quand je vous dis ça, je compte les 6 mariages qu'on fait par an, mais on pourrait être une usine à mariage. Mais c'est pas notre désir, même si c'est le plus beau jour de leur vie. Ils se souviennent plus de la fête et du mariage que de ce qu'il y avait dans le verre. Non, à la limite, je devrais pas le dire, parce que j'aime bien aussi les mariages, et on en a eu quelques-uns de sublimes cette année. Mais on aime bien aussi les congrès de chirurgiens ou de lawyers, parce que ils sont peut-être plus focus sur ce qui se passe au fond du verre en cristal. Et là-dessus, on en voit personnellement, on en voit beaucoup. On voit peut-être 4000 personnes sur un an, c'est beaucoup. Même si on voyage 3 fois 15 jours aux États-Unis, où on voit aussi beaucoup de monde, mais moins qu'ici, bien sûr. Et ici, toutes les limousines noires qui avant s'arrêtaient chez notre fille, puisque maintenant elle a l'appellation, elle s'en vante pas trop, mais l'appellation Palace, mais elle préfère dire Palace des Vignes, avec son restaurant bi-étoilé, ses 3 restaurants, 2 piscines et plus la grande piscine naturellement chaude du spa, ça fait beaucoup aussi. C'est un complexe de grand luxe, mais un complexe vert, complètement écolo. Et les gens sont sensibles à ça aussi. C'est elle qui a racheté les murs et maintenant elle a 3 autres hôtels, mais dont un qui est ouvert dans la Loire, sur le même principe de hameau de luxe. Et la stratégie est vraiment d'avoir de très beaux hameaux hôteliers. Là, ils ont acheté avec son mari. Tout le monde travaille en couple dans ma famille, c'est assez spécial. Et ils ont acheté en Bourgogne et en Alsace aussi. De très beaux châteaux qui étaient passés de relais châteaux ensuite dans les grandes étapes françaises et qui sont très beaux mais qui ont besoin d'un réassortiment, enfin d'un refurbishment complet.
Et pensez-vous qu'on apprécie mieux un vin quand on sait comment et par qui il a été produit ?
Mais bien sûr, c'est tellement important. Là, vous avez visité le château certainement trop rapidement, mais je pense que vous avez compris le mal qu'on se donnait. Et quand on suit la vie d'un château sur un an avec les vendanges, les vinifications, et après en ce moment on est plutôt dans la taille, le sécaillage, etc., c'est compliqué. On voit qu'il y a un travail, ce qu'on appelle les petites façons, et si on n'a pas des gens dévoués qui sont attachés à leur parcelle et à leur vignoble, on n'y arrive pas.
J'ajouterai qu'en France, 42% des touristes pratiquant le no-tourisme, c'est-à-dire la visite des régions viticoles et de leur production, sont les touristes étrangers, soit 4,2 millions d'étrangers qui se pressent dans les vignobles pour découvrir l'univers du vin et le déguster. Au total, ce sont pas moins de 10 millions de touristes qui, chaque année, vont visiter les terroirs du vin. Vous l'aurez donc compris, le vignoble bordelais pèse lourd dans l'économie de la région et est de plus en plus exporté. Cela émane d'une influence sur le monde en termes de vin et contribue à l'élaboration d'un soft power français, puisque comme nous l'avons vu avec les informations de Madame Catiard, qui dit vin dit territoire et terroir. Or ici, c'est la région de Bordeaux et si on élargit la Nouvelle-Aquitaine et encore plus la France.
Maintenant que nous sommes devenus experts quant à la partie économique et touristique du vin, pourrais-tu nous en dire un peu plus concernant les classements à l'UNESCO ?
Oui, comment ne pas s'intéresser au classement dont le plus symbolique est le classement patrimoine mondial de l'UNESCO qui se divise en deux branches, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Ce classement est réputé pour faire foi d'un soft power important lorsque des pays voient des traditions, des cultures inscrites dans cette liste prestigieuse. Et figurez-vous qu'indirectement, le vin est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à travers le repas gastronomique inscrit en 2010 qui tient à conserver, je cite, un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion, l'art du bien manger et du bien boire. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie de l'être humain et les productions de la nature. Parmi ces composantes importantes figurent le choix attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir, l'achat de bons produits, de préférences locaux dont les saveurs s'accordent bien ensemble, le mariage entre mets et vins, la décoration de la table et une gestuelle spécifique pendant la dégustation. Aussi, la ville de Bordeaux, port de la Lune, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui représente une image de marque pour le vignoble qui lui est associé, d'où sûrement le fait qu'on attribue souvent génériquement le terme de Bordeaux au vignoble tout entier qui regroupe pourtant de nombreuses appellations. Mais outre cet aspect général d'une ville aujourd'hui mondialement connue, il y a un lieu inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO qui assoit le savoir-faire français lié au vin et à son terroir qui n'est autre que la juridiction de Saint-Émilion, ce terme regroupant les territoires autour de la ville de Saint-Émilion et dont les Romains et médiévaux y ont introduit puis développé la vigne. La juridiction est remarquée pour son territoire consacré à la viticulture et son patrimoine architectural remarquable, fort du passage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur le territoire. Je cite le site de l'UNESCO, « Il s'agit d'un paysage exceptionnel, entièrement consacré à la viticulture, dont les vignes et les villages comptent de nombreux monuments historiques de qualité ». Le classement à l'UNESCO est donc important, voire primordial, car il conjure la connaissance d'un patrimoine, d'un bien exceptionnel et d'un savoir-faire à l'échelle internationale, et c'est souvent le signe de retombées économiques fortes en faisant connaître ce patrimoine à l'échelle mondiale.
Cependant, Romain, le classement de l'UNESCO est-il le seul sur lequel nous pouvons nous appuyer ?
Non. Un des classements les plus symboliques du vin de Bordeaux et dont nous ne pouvons pas passer à travers est certainement le classement de 1855. Et si nous faisons encore et toujours un peu d'histoire, nous nous apercevons très vite que ce classement avait une optique très claire de soft power, remontant dans le temps pour 1855. Napoléon III, au pouvoir depuis 7 ans, dont 3 ans en tant qu'empereur, décide d'organiser une exposition universelle à Paris. Une exposition universelle, ce n'est autre qu'une foire où chaque pays est invité à tenir un pavillon dans l'objectif de montrer les cultures et savoir-faire de son pays et de les vendre au monde entier. C'est donc une logique de soft power, même si le terme est anachronique, mais la dynamique est la même. Napoléon III demande à des comités officiels de sélectionner les produits et des œuvres d'art dignes d'être exposées. La même année donc, on établit un classement pour le vin à Bordeaux, dans l'objectif de désigner les meilleurs vins qui seront exposés. Ainsi, M. Lodi Martin du Four du Berger, président de la Chambre de commerce de Bordeaux et qui plus est propriétaire du château Smith-Olafite et Gironville, ferait préparer une carte des vignobles pour montrer de les meilleurs crus. Pour ce faire, rien de plus simple, comme je l'ai déjà expliqué, on ne fait pas de dégustation, mais on part avec l'idée que le temps a fait que les meilleurs vins se vendent aux prix les plus élevés. Ainsi, on établit un ordre de prix au baril. Par exemple, les premiers crus sont les barils qui se vendent 3000 francs, les deuxièmes crus devant être cotés 2500 à 2700 francs. Le classement comptait initialement 57 crus pour les rouges et pour les blancs 21 crus. Actuellement, pour une ordre d'idée, ce sont 61 crus classés au classement de 1855 en rouge et 27 en blanc.
Si j'ai bien compris, Romain, il est facile de repérer la qualité d'un vin au travers des différents classements qui existent. Néanmoins, qu'en est-il des acteurs et des professionnels de ce domaine ?
Et si l'on s'intéresse maintenant aux professionnels du vin et au milieu du vin, la reconnaissance dans le milieu joue un rôle extrêmement important, puisque cela est souvent signe d'une promotion à l'international, dans les restaurants, les caves à vin, qui sont autant de signes d'influence d'un vignoble dans l'économie du vin mondial et dans le secteur du vin. Ainsi, de nombreuses critiques font part de leur admiration pour le vin de Bordeaux. Je cite par exemple Robert Parker, célèbre dégustateur de vin et critique œnologique aux États-Unis, qui dit « De toutes les grandes régions vinicoles du monde, Bordeaux produit avec régularité le meilleur niveau de qualité. Si l'on y trouve aussi quantité de vins dénués de complexité et de caractère, les mauvais y sont rares. En matière de Cabernet Sauvignon, de Merlot et de Cabernet Franc, Bordeaux demeure la référence mondiale. » Enfin, nous avons, je pense, pas mal brossé le tableau de l'influence que peut avoir le vignoble bordelais au niveau mondial, mais cette influence et la renommée d'un vignoble, ça s'entretient. Et cela passe parfois par des stars et des personnalités qui, par leur visite, contribuent à faire se médiatiser le vignoble de Bordeaux. Alors, on a appris il y a peu que le rappeur Jay-Z, ainsi que Beyoncé, Rihanna ou encore Kylie Jenner, s'étaient rendus dans le bordelais, mais nous ne pouvons pas dérouler cette interview dans votre domaine sans en venir à une autre actualité récente et plus médiatisée qui a fait la fierté de votre château et de toute une région. Je veux ici parler de la venue du roi Charles III. Lui qui, attaché à la cause environnementale et aux pratiques plus vertes, a tenu à visiter votre vignoble pour saluer votre engagement à utiliser moins de produits chimiques, vous qui êtes dans les premiers à avoir effectué cette transaction. Maintenant, passons à un dernier temps, plus court que les autres, qui va nous inviter à regarder les dynamiques actuelles du vignoble bordelais. Face à la montée en puissance des vignobles étrangers et à la concurrence étrangère, le vignoble bordelais a-t-il à craindre? Doit-il rougir? Lui qui est d'autant plus confronté à une phase de baisse des prix de vente, alors qu'à l'opposé, le prix d'hectare de vigne n'a cessé de croître, ou du moins stagner, ça sera l'enjeu de notre troisième partie, le vignoble bordelais, entre renouveau et difficulté. Explication.
L'histoire est belle, n'est-ce pas? Pourtant, le vignoble bordelais n'est pas exempt de difficultés. Romain, tu as jugé nécessaire, et toute l'équipe t'en remercie, de passer un peu de temps sur les difficultés rencontrées par le vignoble ces dernières années afin de remplir pleinement le contrat des dynamiques locales.
Oui, nous voici donc dans cette dernière partie et intéressons-nous déjà à l'évolution des cours du vin. Déjà, on constate une baisse des prix de la vente du vin qui impacte surtout les vins qui ne sont pas classés en grand cru, les exploitants sans dette car le prix du tonneau est plus faible que le coût de production. Ainsi, en 2023, un rapport du journal Le Monde estime que 1371 viticulteurs se déclarent en difficulté, soit 35 000 hectares de vignes situés dans l'entre-deux-mers, le Médoc et les Côtes. Un viticulteur témoigne par exemple que le prix du tonneau est de 600 à 700 euros pour un coût de production qui dépasse les 1200 euros. Beaucoup se posent ainsi la question de l'arrachage des pieds de vigne, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Passons maintenant au niveau de production, puisqu'aujourd'hui le vignoble connaît une crise de surproduction face à une chute des ventes qui constitue moins 13% de quantité exportée et vendue en moins à la fois pour la grande distribution et pour l'export. En 2022, c'était pas moins de 4 millions d'hectolitres vendus sur un total de 5,5 millions d'hectolitres produits. On a donc un décalage qui fait que certains ne s'en sortent plus et souhaiteraient arracher des vignes pour tenter d'équilibrer cette balance. Le problème posé, puisque vous pourriez bien me demander pourquoi ne le font-ils pas, mais sachez qu'il est interdit de laisser des vignes en friche et il faut les remplacer impérativement par une autre production. Aussi, l'arrachage coûte cher, par conséquent, les viticulteurs, pour vous donner un ordre d'idée, ils demandent une prime de 10 000 euros par hectare pour l'arrachage des vignes. Ainsi, certains demandent cette subvention à l'État et à l'Union européenne pour l'arrachage des vignes, ce qui permettrait de rééquilibrer le marché et la production. Les exploitants souhaiterait arracher 15 000 à 20 000 hectares de vignes pour rééquilibrer l'économie viticole, ce qui est monumental. Un autre point pour tenter de pallier cette surproduction est que le ministère de l'Agriculture finance une campagne de distillation pour produire par exemple du gel hydroalcoolique ou des parfums, mais ces décisions ne conviennent pas puisque vendre à la distillerie, c'est vendre à faible coût, ce qui ne permet donc pas de balancer le coût de production élevé.
Et donc Romain, quels sont les autres problèmes que rencontre le vignoble bordelais ?
On a aussi un fossé qui se creuse entre les crus de renommée dont les prix sont souvent élevés et les entrées de gamme dont les prix sont faibles et qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Aujourd'hui, les crus chers, qui ont autrefois contribué à construire l'image et à faire la fierté du vignoble bordelais, concourent malheureusement à donner une image du vin de Bordeaux qui est un vin cher et dont on ne peut pas se permettre d'en acheter tous les jours. Ceci étant alimenté notamment par l'inflation qui touche le pays et la baisse du pouvoir d'achat, en clair, les gens n'ont plus les moyens, pour beaucoup, de s'acheter une bouteille de vin, ce qui contribue à faire s'écarter une certaine classe d'acheteurs qui achèteraient volontiers un vin entrée de gamme s'ils le trouvaient bon. Un autre événement majeur qui a mis un coup de frein aux ventes de vin sont la crise du Covid-19 qui a entériné cette baisse des ventes, notamment avec le fait que le marché avec la Chine ait été fermé, pays qui importe 1/5 des bouteilles de Bordeaux. Cela s'ajoute au fait que de plus en plus, le rouge de Bordeaux, image dominante du vin, est délaissé pour des vins plus sucrés et de plus en plus appréciés que sont le blanc et le rosé. De fait, les difficultés s'accumulent pour la filière bordelaise à laquelle tout semblait pourtant sourire depuis une décennie. Bordeaux paye d'abord le tribut du gel de l'année 2017 qui a fait baisser la production de moitié, lui faisant perdre l'année suivante une bonne partie de ses marchés que les vignerons peinent à reconquérir. D'autant qu'une partie de la profession a fait l'erreur d'augmenter ses prix pour compenser les baisses de volume. La filière subit aussi le retournement du marché chinois sur lequel la consommation a stoppé sa progression. Si la Chine a permis à Bordeaux de sortir de sa crise de surproduction à partir de 2009, elle plombe aujourd'hui ses exportations en se tournant vers les vins d'Australie ou du Chili, exemptés de taxes par le pays. La filière bordelaise fait aussi face à des problèmes plus profonds relatifs à son image. On a donc une concurrence étrangère qui émerge et prend de plus en plus de place, qui sont de plus en plus combatifs, notamment par la mise en place de prix, je dirais, agressifs, qui font que les populations moins aisées, comme on peut trouver en Asie ou dans les pays en développement, se retrouvent à acheter ces vins-là, qu'ils considèrent comme des vins de tous les jours.
Que peut-on faire pour contrecarrer les phénomènes que tu as énoncés précédemment, Romain ?
Pour lutter contre ces facteurs, il faudrait bien un renouveau du vignoble bordelais dans son image, celle d'un vin accessible à tous, produisant autant de vins rouges que de vins blancs, ainsi que pour certains châteaux du rosé. Car oui, là où la concurrence étrangère est forte, c'est qu'elle s'adresse aux jeunes en lui produisant des vins d'entrée de gamme, pas chers et très abordables en termes de goût tant que de prix. Mais là encore, n'allons pas trop vite en besogne, à chaque pays sa gastronomie et son vin adapté, et selon certains, il ne s'agirait pas de remplacer ou d'intégrer ces vins du nouveau monde aux catégories existantes, mais plutôt de créer dans le domaine ce qu'on appellerait les vins de soif. On pourrait aussi penser à la diversification, et je me tourne vers vous, Madame Catiard. La famille Catiard, vous êtes à l'origine de la marque de cosmétiques Caudalie. Pouvez-vous nous expliquer quel est le concept et en quoi cela consiste ?
Alors, l'une de mes filles, ça c'est la fille aînée, elle a rencontré un jour un savant qui disait qu'on jetait, pendant les vendanges ici, un dimanche, et il disait qu'on jetait le meilleur de la récolte. Il faisait référence aux pépins blancs qui ne macèrent pas et ne donnent donc pas leur vertu au vin rouge. Et dans les pépins, vous avez des flavonoïdes, des polyphénols et du resvératrol. Et elle a aujourd'hui, il lui faut une tonne de pépins pour faire un kilo de principe actif. Donc, elle n'en prend pas que chez nous, elle en prend partout. Et puis ensuite, elle a maintenant 7 brevets développés avec ce professeur Vercotren, développés aussi avec Harvard. Très certainement, un des meilleurs actifs, des meilleurs actifs, je pense, qu'on peut trouver dans un soin de beauté. Je n'irai pas plus loin parce que c'est vraiment son affaire. De même que les hôtels sont maintenant l'affaire du jeune couple, d'Alice et de son mari Jérôme, et c'est eux qui s'endettent et qui avancent avec l'aide du BPI et des banques parce que leur stratégie est bien définie maintenant.
Merci beaucoup Madame Catiard, à vous entendre parler, je suis persuadé que le vignoble bordelais en a encore beaucoup sous la pédale.
Le premier épisode reportage du Géopolitique s'est terminé. Quelle aventure, Romain, merci beaucoup. Tu as largement rempli le contrat de ce reportage. C'était très intéressant. Merci Madame Catiard de nous avoir reçus ici au château Smith-Olafite. Manon, comme tu en as l'habitude de le dire, le Géopolitique c'est...
Tous les lundis à 9h, on vous retrouve pour plein d'autres épisodes très passionnants à l'image de celui-là. Et n'oubliez pas, le Géopolitique c'est sur toutes les plateformes avec un petit retard sur 10h.
Merci à tous et à la semaine prochaine.